Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, si vous en avez une. Il doit en rester quelques-unes à l'arrière, si jamais. On est dans Marc. On va rester quelques dimanches encore dans Marc, avant d'avoir une série spéciale sur les anciens, courant mars. Pour rappel, hein, pour ceux qui nous rejoignent, on parcourt depuis quelques semaines l'évangile de Marc, cet auteur qui nous trace un portrait de la vie de Jésus et de ce qu'il est à travers des petits focus, des petits épisodes très succincts, très limités, et afin de nous présenter qui est Jésus. Et dès l'intro, hein, un des versets clés de Marc au chapitre 1 qui disait que Jésus était celui qui proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude, croyez à la bonne nouvelle. » Marc nous présente cette venue de Jésus comme une bonne nouvelle qui est porteur d'un message. Et on a vu tout au long des épisodes déjà beaucoup de choses sur qui était Jésus. Il a manifesté, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, mais il a manifesté qu'il avait une autorité, comme personne n'avait eu une autorité jusqu'à ce jour. Une autorité revêtue, bien sûr, par Dieu, revêtue du Saint-Esprit. Une autorité envers, dans son enseignement. Les foules étaient interpellées par la qualité de ses paroles, par la profondeur de ses paroles. Il a montré une autorité comme jamais sur la question des maladies, la question des puissances occultes. Il l'a montré à travers différentes guérisons. Il a vu qu'il avait l'autorité pour voir dans les cœurs et inviter à des changements de cœur. Il nous a montré qu'il avait l'autorité de pouvoir pardonner les péchés. Et on a en tête cet épisode où il a guéri cet homme paralysé depuis sa naissance pour montrer qu'il avait cette autorité-là. En tout cas, il y avait les foules qui se sont rassemblées, qui étaient interpellés, des gens curieux de tous horizons pour voir ce que Jésus annonçait, partageait. Ce matin, on est dans le chapitre 7, et on est dans le contexte où avec Matthieu, on avait vu il y a 15 jours, le contexte de la question de la pureté et de l'impureté. Parce que les Juifs étaient très attachés à honorer Dieu, et donc ils avaient classé un certain nombre de choses, voilà ce qui est impur, voilà ce qui est pur, voilà ce que Dieu ne veut pas qu'on pratique, voilà ce que Dieu attend de nous, et ils avaient bien sûr, on le sait, le peuple pharisien, les Juifs avaient rajouté tout un tas de règles pour montrer son désir de pureté, et Jésus avait montré que l'impureté, c'était la rébellion profonde vis-à-vis de Dieu, le péché, les attitudes mauvaises, rebelles, et qu'elle provenait, cette impureté, de la profondeur du cœur. Elle provenait de l'intérieur du cœur, et non pas des aliments, parce que voilà, les pharisiens avaient reproché les disciples de Jésus d'avoir négligé des aliments. Ce n'est pas ce qui est entre qui rend de nous quelqu'un d'impur, mais c'est ce qui en sort, et que c'est la source de notre rébellion, la source de notre impureté, elle est là au fond de notre cœur. Alors c'est vrai, on peut la revêtir, on peut la cacher, on peut la masquer par des attitudes extérieures religieuses. Mais Jésus a montré que c'est dans le cœur que la transformation doit se faire. C'est là la source de cette impureté, et c'est là que Dieu doit agir. Donc on est à la suite de cet échange, voilà ce qui est pur, voilà ce qui est impur, et il est vraiment dans le territoire juif, hein, et à l'époque échangé. Jésus il a fait déjà beaucoup de choses qui, pour des juifs rigoureux, montraient que on ne touchait pas des malades comme ça, qui étaient signes aussi d'impureté, etc. Jésus a montré qu'il dépasselait et qu'il montrait véritablement que la source véritable de l'impureté de l'homme était dans le cœur. Et là, Jésus, il va aller en territoire non juif. Jésus enseignant juif, prophète juif, qui se rend en territoire, on pourrait dire, quelque part ennemi. Simplement, vous avez peut-être une carte, hein, mais pour localiser, vous avez Israël, et ben, il va se rendre au-dessus d'Israël, dans le nord, dans le territoire de Tyr et de Sidon. Voilà, on va accompagner Jésus là-haut. Et puis après, il va redescendre et il va se déplacer plutôt à l'est du Jourdain, encore en territoire ennemi, dans la Décapole, et il va encore faire un certain nombre de choses avant de retourner en territoire d'Israël en traversant le lac de Galilée, si je ne me trompe pas. Alors, je vous propose, on est Marc 7, on va revoir un épisode qu'on a vu dimanche dernier, qu'on avait vu avec les enfants, mais voilà, j'ai une grosse portion ce matin, on est dans Marc, chapitre 7, à partir du verset 24. Je vous invite à suivre dans vos Bibles. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive, d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille, et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. » Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel et soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Ces jours-là, une foule nombreuse s'était réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Mais comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici dans un endroit désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?»« 7 » répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir remercié d'eux, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, Jésus les bénit et les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de des morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient environ 4 000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens arrivèrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre du pain. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux. « C'est parce que nous n'avons pas de pain ?» Jésus, le sachant, leur dit « Mais pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore ? Avez-vous le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ?»« 12, lui répondirent-ils. « Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore ? Jusqu'ici. Je vous invite juste à prier. Seigneur, je suis reconnaissant du témoignage écrit que nous avons de Jésus-Christ. Merci parce que ces épisodes de la vie de Jésus sont là aussi pour nous interpeller, nous questionner. Seigneur, on a chanté, on a rappelé ta grâce, de savoir que notre repos est en toi, et je prie qu'au travers de ce que Marc nous laisse, nous puissions être encore encouragés. Puissions être encouragés d'avoir pu un jour saisir l'Évangile. C'est ce que nous voulons te demander, que ton esprit, que ta parole puisse avec force et avec l'autorité que tu leur as donnée, puisse nous toucher, nous interpeller, nous aider. Seigneur, à nous émerveiller de la grâce et du salut que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Alors, ce passage va nous questionner un peu sur le type de foi, le type de confiance qu'on peut placer en Jésus-Christ. Alors, on ne sait pas pourquoi Jésus a quitté le territoire d'Israël pour se rendre en territoire ennemi. Enfin, ennemi, chez les étrangers. Est-ce que, voilà, on a vu que dans les passages précédents, il y avait une des raisons possibles, c'est parce qu'il y avait une certaine tension dans les épisodes. Certains juifs le rejetaient, on cherchait à le prendre au piège. On venait à lui que pour des miracles, il était entouré de foule, il avait du mal à prendre du temps à part avec les disciples. Sa mission d'ordre spirituel était incomprise, peut-être la foule était trop nombreuse, et il voulait se mettre à l'écart avec ses disciples. En tout cas, le début de notre texte semble suggérer, il veut rentrer dans une maison et être en discrétion avec ses disciples. Il a envie d'être en petit comité, mais voilà, peine perdue. Vous avez relevé dans ce texte qu'on a une succession de quelques épisodes. On a une femme étrangère, on a la guérison d'un sourd, d'un muet qu'on a vu notamment la semaine dernière. On a une foule qui est affamée autour de lui. On a des religieux qui restent dans cette incrédulité, et puis on a des disciples décidément qui ne comprennent toujours pas le sens profond du ministère et des paroles de Jésus. Mais dans ce texte, on trouve que, et c'est peut-être la pensée centrale que j'aimerais nous encourager, c'est que Jésus est venu pour être le salut pour tous, le sauveur universel. Mais il est venu pour être le salut de tous ceux qui veulent comprendre. Donc, je vous propose de regarder sous ces deux aspects ces différents textes. Jésus, le sauveur de tous. Je viens de le dire, Jésus se met à l'écart dans une région étrangère. Alors qu'il souhaite être tranquille, on a cet épisode de cette femme étrangère, non-juive, désespérée. Versets 24 à 30 du chapitre 7. Alors, pour le contexte de l'époque, il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour que la scène, en fait, soit quelque part choquante. On a une femme, alors... À l'époque, les femmes n'étaient pas toujours considérées comme on essaye en tout cas de l'être aujourd'hui. Il y avait un mépris, il y avait une certaine discrimination, on rabaissait. C'était pas toujours bien vu, en tout cas pour les Juifs, de les enseigner, même de leur adresser la parole. Et on a vu que Jésus, déjà dans les épisodes d'avant, a pris vraiment à contre-pied. Il a pris soin de nombreuses femmes qui venaient le voir. Déjà une femme non-juive. Le texte nous dit cela. D'origine syro-phénicienne, une païenne, une impure, où les juifs devaient garder leur distance. Et le texte souligne même cette double impureté en disant que cette femme avait une fille qui était possédée par un esprit impur. Donc il y a tout qu'il faut pour qu'un bon juif qui se respecte ne s'approche pas de telle personne. C'est vrai que on assiste et on le sait dans les différentes traces et dans l'Écriture nous le présente aussi que beaucoup de Juifs avaient gardé leur distance, parfois même un mépris. Les Juifs traitaient, et c'est là où ça fait écho au texte aussi, les non-Juifs comme des chiens. Nous sommes les enfants et les peuples environnants des chiens. C'est choquant pour nous. Et on le, c'est tellement choquant que, alors on a le texte parallèle dans Matthieu, dans Matthieu 15, qui parle aussi de cet épisode, et les disciples, quand ils voient cette femme s'approcher, ils disent, Jésus, renvoie-la! On n'a pas dans ce texte de Marc, mais même les disciples voyaient que c'est une situation embarrassante. Voilà, elle n'a pas sa place parmi nous. Pourtant, elle s'est approchée, on le voit dans le texte, et elle s'est jetée à ses pieds. Et il y a cet échange qui est surprenant, qui dérange peut-être pour nous, entre cette scène domestique hein, autour de cette nourriture, ce pain qui est donné d'abord, avant tout pour les enfants et voilà et pas pour les petits chiens. Donc voilà, on a en tête cela. En fait, Jésus il est en train de rappeler qu'il est venu avant tout pour Israël. Il est l'accomplissement des promesses pour le peuple juif. Ce sont ça les enfants, ce sont les juifs. Et là, il évoque la priorité de son ministère parmi les juifs. Il allait de synagogue en synagogue. Son ministère était pour les juifs. Le temps pour les païens, pour les non-juifs, n'est pas encore venu. Il n'est pas encore temps. Au premier regard, on a l'impression que Jésus est dur. Mais en fait, il est en train d'éprouver la foi de cette femme étrangère qui s'approche de lui. Et ce qui est beau et à la fois surprenant, c'est que cette femme se reconnaît comme un chien. Elle n'est pas en train de dire, elle est prête à manger des miettes, de se contenter des miettes qui tombent de la table, que se nourrissent les enfants. Sa part est moins bonne, mais elle veut s'en contenter. Pourquoi attendre? Elle n'est pas contrariée par ce que Jésus dit, en tout cas le texte ne nous le dit pas. Elle ne lui dit pas, elle n'est pas en train de dire, oh j'ai autant de droits qu'une femme non juive. Elle n'est pas en train de dire cela. Elle sait qu'elle ne mérite rien de la part de Jésus, mais elle est prête. Elle est assoiffée au point de désirer même ne serait-ce que des miettes qui tombent et que laisseraient les enfants. Même si c'est des miettes, je prends. Et Jésus est impressionné par la foi, par l'attente de cette femme. Et il agit. Il fait ce que cette femme lui a demandé, la guérison de sa fille. À cause d'une parole de foi, de confiance. Le problème est réglé. Va, rentre chez toi, ta fille est guérie. Jésus n'a même pas besoin de se déplacer. Moi, je trouve que c'est... Oh. Et elle rentrera sa fille couchée, apaisée, guérie. En fait, Jésus, par cet épisode, est en train de rappeler, notamment aussi à ses disciples, qu'il est d'abord le sauveur des Juifs, bien évidemment. La bonne nouvelle est pour eux, mais pas que. Mais pas que. Cet épisode souligne, il est le sauveur de tous, y compris d'une femme étrangère. L'apôtre Paul le soulignera avec ces mots de cette façon-là dans Romains 1:16. Je n'ai pas honte de l'évangile, de la bonne nouvelle de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, donc on a aussi cette priorité, mais aussi du non-juif. La bonne nouvelle du salut Et ces différents versets sont là pour montrer cette bonne nouvelle, elle est pour tous, pour toutes les nations. Et c'est un fil rouge qui parcourt l'ensemble de l'Écriture. Et parfois, on a du mal, on a l'impression, mais Dieu, il est intervenu que pour Israël. Non, mais depuis la création, Dieu rappelle que les espérances, les promesses de restauration sont pour toutes les nations. Elles vont passer par Abraham, mais Abraham sera une bénédiction pour toutes les nations. Il passe par un peuple qui devait être un témoin dans ce monde pour toutes les nations, etc. Une restauration pour toutes les familles de la terre. Et Jésus est le sauveur aussi de cette femme. Peu importe qui nous sommes, c'est là aussi une leçon peut-être, peu importe, on pourrait dire le mal qu'on a fait, cette question d'impureté, peu importe l'origine de la famille, si tu as besoin de Christ, si tu as besoin de Jésus, si tu as besoin d'un sauveur, Jésus ne te rejette pas. Jésus ne te rejette pas. Et on le voit dans le deuxième épisode qui souligne cet aspect-là. Là, je reviens à l'épisode qu'on a vu dimanche dernier, la guérison de ce sourd muet. Alors Jésus se déplace, il est toujours dans une région étrangère, dans une région où il avait déjà guéri un homme lié par un esprit impur, on voit ça dans Marc 5. Et la foule présente un homme sourd. Et Jésus n'hésite pas à le toucher. On l'avait vu. On en avait vu. On se dit, mais pourquoi il touche? Mais c'est quelqu'un qui n'entendait pas, quelqu'un qui ne pouvait pas parler. Il lui montre par le contact physique, cet étranger malade, que c'est là que je vais te guérir. Il a touché ses oreilles, sa langue, c'est choquant. Jésus a touché les endroits qui ont causé de la souffrance à cet homme. Et c'est là qu'il a agi. Et un mot a été prononcé. Ouvre-toi. Un mot qui a signifié sa guérison parfaite, totale. Sa vie, à partir de ce moment-là, de cet homme, a été changée. Il a pu parler, il a pu entendre. Et on a vu que la foule autour de lui était bouleversée par cette puissance de Jésus-Christ. Il fait tout à merveille. Ils n'ont jamais vu quelqu'un d'aussi puissant. Et je vous rappelle, dimanche dernier, on avait évoqué que cet épisode mettait en lumière des prophéties qui avaient été données à Israël, dans Ésaïe notamment 35, on va pas les reprendre, mais où que Dieu enverrait un sauveur qui viendrait ouvrir les yeux des aveugles, qui viendrait ouvrir les oreilles des sourds, qui viendrait délier les langues, qui viendrait apporter le salut, la délivrance. Et là, Jésus, par cet épisode, montre qu'il est celui que le peuple d'Israël attendait. Dieu vient lui-même en personne, Jésus, sauver son peuple. Les sourds entendent, les muets parlent. Mais on voit que c'est pas que le peuple d'Israël qui est concerné. Parce que là, il guérit un homme étranger. Il est en train de montrer, les prophéties ont parlé d'une restauration de mon peuple, mais ça déborde. La guérison, elle est pour les étrangers aussi. Alors que Jésus est en territoire étranger, il n'y a pas de frontière au salut. Le salut est pour tous. Les étrangers en ont l'accès. Et ça, il faut le miracle de Dieu pour qu'il ouvre nos cœurs, nos oreilles, pour nous permettre de comprendre cette ouverture extraordinaire. Ce qui était des signes pour Israël de la venue de son Messie, Jésus les démontre, les déclare, les présente en territoire étranger. C'est extraordinaire. Jésus est le salut pour tous. Et on le voit dans la... Et non seulement maintenant, ça s'accumule, parce qu'au début du chapitre 8, vous avez cela, cette foule maintenant. Les gens de la région sont vraiment accros à Jésus, parce qu'il y a toute une foule rassemblée dans cette région étrangère. Alors, on ne connaît pas la composition de cette foule. On ne sait pas s'il y avait des juifs qui habitaient dans la région, plus des non-juifs. Mais en tout cas, j'imagine que si déjà c'était dans un désert au loin d'Israël, ben voilà, qu'il y avait une foule de tout le coin qui était présent, cosmopolite, tout hétérogène. Et plusieurs jours passent, vous l'avez vu, 3 jours notamment, et la foule commence à avoir faim. Quand on a faim, on n'est pas toujours de très bonne humeur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Il manifeste sa compassion. Il est touché par cette foule qui est devant lui, qui écoute. On ne sait pas ce qui a été dit, on ne sait pas son enseignement, on ne sait pas ce qu'il a fait dans ces différents jours. Est-ce qu'il a guéri ? Est-ce qu'il a enseigné ? Est-ce qu'il est assis ? Est-ce qu'il a pris des gens à part ? Voilà, mais en tout cas, il y a une foule autour de lui, et Jésus manifeste sa compassion, son cœur est touché. Je relis versets 2 et 3 du chapitre 8. Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ça nous rappelle l'épisode que Stephen nous a partagé d'une autre multiplication, d'une autre foule en Marc 6, et quelques pages avant, où il y a eu aussi cette multiplication. Et à l'époque, c'était les disciples qui avaient interpellé Jésus et qui avaient dit « Jésus, regarde cette foule, ils ont faim, il faut que tu les renvoies chez eux. » Parce que sinon, ils vont pas, ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient pas de solution. Et Jésus, là, il les anticipe un peu, il dit « on va pas les renvoyer parce que ils sont venus de loin, ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas mangé. » Et je me suis dit, si j'avais été un disciple qui a vu il y a, je sais pas, quelques semaines, je sais pas si c'est quelques mois, qui avait vu une foule rassemblée, qui était affamée aussi, et que Jésus avait béni d'un pain, d'une nourriture, je me suis dit, tiens, on est en train de revivre la même chose. Je me suis dit, si je suis un disciple, je dis, ouais, Seigneur, on n'a que quelques pains, mais vu que tu as fait quelque chose, tu es capable. Mais non, mais là, on voit les disciples, mais comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici dans le désert ? Ils ont le même problème et ils n'ont pas de solution. Ils disent combien, Jésus leur pose la question, combien avez-vous de pain ? 7. On voit des disciples qui ont oublié ce qu'ils ont vécu il y a quelque temps avec le Seigneur. Qu'est-ce que fait Jésus ? Jésus multiplie à nouveau le pain. Jésus multiplie à nouveau le poisson. Et avec un résultat tout aussi spectaculaire, la foule est rassasiée. 4000 personnes, nous dit le texte. Qu'est-ce qu'est en train de montrer Jésus ? Jésus est en train de montrer que les non-juifs sont aussi bénis de cette nourriture. Je suis le pain pour vous. Ils sont invités à participer à ce même repas. Ils sont aussi le bienvenu à ce pain de vie. D'ailleurs, dans les mots qui sont employés, dans les verbes, quand il bénit, qu'il rompit, on retrouve Marc 6, le premier épisode de la multiplication. On le retrouve ici, dans cette multiplication envers les étrangers. Et on le retrouve aussi dans le partage de la Sainte Cène. C'est les mêmes mots. Je suis ce pain qui est donné pour vous. Et là, Jésus est en train de montrer, une fois de plus, le salut, il est pour tous. Ma vie donnée, le pain de vie, il est pour tous, il est pour chacun. Il est venu pour les non-juifs. Et Jésus a le même amour, la même compassion pour ce peuple comme il l'a pour le peuple juif. Cela l'a dérangé de voir cette foule qui ont faim. Il les nourrit 4000. Et je crois que Jésus veut qu'on comprenne que Jésus est le sauveur du monde. Il est là pour tous et il y en a en abondance. Et malgré ces épisodes qui s'enchaînent et non des moindres, on se dit, j'espère maintenant que les disciples ils ont compris qu'il est venu apporter un message, une bonne nouvelle qui est pour toutes les nations. Et quand on connaît les disciples et les apôtres, ça a dû cheminer encore quelques années. On a vu cette semaine dans deux groupes de quartiers d'ailleurs en Actes, ça a dû attendre Acte 10 pour qu'ils se rendent compte que le salut était accordé aussi aux non-juifs, notamment avec cet épisode de Corneille. Mais Jésus est déjà en train de montrer le salut est pour tous. Et à la suite de ce récit, je trouve que c'est formidable, la manière dont Marc articule verset 10, il monte dans la barque et il repasse en territoire juif. Et là, des pharisiens viennent à sa rencontre, et vous l'avez tous remarqué, ces pharisiens qui sont incrédules, versets 10 et 13. Et le texte nous dit même qu'ils ont essayé de mettre Jésus à l'épreuve. Ils lui demandent un signe du ciel pour attester de son autorité. Je me dis, s'ils avaient pu être de l'autre côté du lac. S'ils avaient pu voir, entendre tout ce que Jésus avait fait. Mais ils ont déjà eu ces choses-là. De ce côté-ci du lac. Ils avaient du mal à voir en Jésus celui qui devait venir, en raison de ce cœur hostile envers le prochain. Ce salut pour tous, c'est quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à discerner. Jésus accueille juifs et non-juifs. Ils n'ont pas saisi que le ministère de Jésus, que le salut offert à l'humanité, était pour chacun, pour tout homme. On sait que le monde a besoin de ce salut seul en Jésus-Christ, pour tous. Nous sommes invités à partager cette foi, à chacun. Et nous devons apprendre à mettre de côté nos préjugés. Alors j'aimerais nous interpeller, quand est-ce que nous avons témoigné de ce salut pour tous ? Est-ce que nous sommes encouragés, réjouis de savoir que nous sommes des graciés? Samedi dernier, on avait, au groupe de jeunes, on avait invité quelqu'un qui nous a partagé sa foi, son témoignage, et il avait plus de 40 ans de vie avec le Seigneur, et il a dit, je rends grâce pour le salut que j'ai reçu, que Jésus m'a rencontré. Est-ce que nous sommes encore encouragés par ce salut qui a été ouvert à chacun et qui est pour chacun? Est-ce qu'on agit comme Jésus? Est-ce que nous allons envers les personnes qui peut-être subissent des préjugés? Est-ce que nous voyons chacun d'entre nous, autour de nous, comme des hommes et des femmes de même valeur, dignes de ce même salut, des personnes bien aimées de Dieu? Sommes-nous prêts à quitter notre chez-nous? C'est vrai, on est bien quand on est entouré. On sait parfois les guerres entre régions. Sommes-nous prêts à aller au-delà des frontières pour partager ce sauveur pour tous. devrions tous être concernés de ce salut qui est ouvert à toutes les nations. Parce que, à la fin des temps, et c'est la fin de l'histoire qui nous le dit, c'est toutes les nations qui seront en train de glorifier ce Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vrai, ce passage nous parle que ce salut est pour tous, et en même temps, on voit que ce salut est seulement pour ceux qui veulent comprendre. Jésus est vrai et seul sauveur. Est-ce qu'on a le désir de le comprendre? Et je trouve qu'on a un bel exemple, et je reviens à cette femme païenne qui s'est approchée de Jésus pour chercher de l'aide auprès de lui, un juif. Même si elle est non-juive, elle se dit « cet homme, il a une réponse pour moi ». Même si elle ne comprend pas tout, elle sait que Jésus peut l'aider et chasser le démon de sa fille. Seul Jésus est capable de faire cela. On ne sait pas comment elle savait comment elle a eu vent que Jésus avait la capacité de guérir sa fille. On ne le sait pas. Mais elle sait que Jésus peut l'aider. On le voit dans la foi qu'elle manifeste. Elle se jette à ses pieds et elle persiste dans sa demande. Même si Jésus, au premier abord, semblait indiquer autre chose. Le pain, il est d'abord pour les enfants. Elle a le culot. Enfin, on pourrait dire elle a la foi, elle a cette humilité. Oui, elle reconnaît les Juifs, c'est le peuple élu de Dieu. Mais je suis prêt à avoir un reste. Elle est prête à accepter d'être simplement reconnue comme étrangère. Mais elle sait que Jésus a la réponse. Et elle accepte de rentrer. Va, rentre chez toi. Elle n'est pas en train de demander un signe, viens avec moi. Elle dit, ok, et elle rentre. Elle a eu confiance. Et je me mets à la place des disciples qui sont là, qui observent cette femme étrangère, qui a cette foi dans la possibilité de Jésus de guérir sa fille. Dans une humilité sincère, elle est capable de saisir les bénédictions que Dieu lui accorde. Elle a besoin de son secours. Rien d'autre ne peut guérir sa fille. Il y a vraiment un lien entre cette humilité, cette foi, cette confiance qu'elle place en Jésus. Et là, peut-être on a en tête les paroles de Jean-Baptiste, il faut que je croisse et que je diminue. Je ne suis pas digne de lui enlever les sandales de celui qui vient. Cette femme était prête à se contenter de ce que Jésus était capable de lui donner, quelques miettes. Le deuxième épisode, on a la foule qui emmène un sourd. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. De la même façon, cette foule s'adresse à Jésus pour une guérison. Ils comprennent que Jésus peut faire quelque chose pour lui. Ils recherchent son aide. Le texte ne nous dit pas qu'ils sont venus avec de mauvaises intentions, mais ils ont confiance que Jésus peut faire quelque chose. Et il l'a fait. Et Jésus a fait tout à merveille. Et Jésus a guéri cet homme. Il n'est pas question de la foi de cet homme. On ne le sait pas. Le texte reste silencieux. Mais on voit que c'est des hommes et des femmes qui sont prêts à s'approcher et à demander de l'aide à Dieu. Avec la foule, Jésus a compassion de cette foule qui est prête à rester 3 jours sans manger. Je ne sais pas si on aurait été prêt à rester dans ce désert, sans nourriture, prêt à écouter ce prophète qui est venu d'Israël nous parler. Mais il avait une autorité comme personne. Il avait quelque chose. Et ils étaient prêts à rester. Et ils n'ont pas été déçus. Ils ont été nourris abondamment. Je m'imagine à la place de cette foule. Ils sont là, ils écoutent, ils commencent à avoir faim et d'un coup, la rumeur se répand qu'ils doivent s'asseoir et qu'on va leur distribuer leur sandwich. Alors, je sais pas si certains sont allés regarder à l'horizon, s'ils voient une caravane passer avec la nourriture qui revient. Et d'un coup, il y a Jésus peut-être au milieu de cela avec quelques pains. C'est pas énorme, hein. Il y a peut-être quelques corbeilles, mais vides. En tout cas, ceux des premiers rangs, là, parce que 4000, ça fait du monde. Et d'un coup, ils distribuent. Ils étaient prêts à voir quelque chose. Ils n'avaient pas toutes les clés, mais ils étaient prêts à se laisser nourrir. Et tout le contraste, ils étaient prêts. Et tout le contraste avec les pharisiens qui mettent Jésus à l'épreuve. On voit qu'il y a une espèce de mauvaise volonté. Ils ont déjà vu, entendu un certain nombre de choses. On a vu avant, sur le territoire étranger, on ne sait pas comment ils ont entendu, mais ils étaient prêts à faire un pas de confiance. Là, ces pharisiens, probablement qu'ils ont déjà entendu tout ce qui se disait, tout ce qui se tramait en Israël avec Jésus, tout ce qu'il avait déjà fait, parce que voilà, ça s'est entendu, ça s'est répandu de village en village, de ville en ville, mais ça suffit pas à ces hommes.
ils veulent plus. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Ils demandent un signe supplémentaire. Mais Jésus sait qu'un signe supplémentaire ne leur suffira pas. Ils ne sont pas prêts à changer. Ils ne sont pas prêts à reconnaître. Ils ne sont même pas dans cette démarche de se dire, de voir ce que Jésus est en train de faire depuis des semaines. Et Jésus soupire, hein, verset 12. Jésus soupira profondément dans son esprit. Il voit l'incrédulité. Il voit le doute de ces personnes qui sont incapables de faire un pas de confiance, un pas de foi. Un cri de désespoir. Non, rien de cela. Alors que il est le sauveur de tous, présent devant eux. Et Jésus les quitte. Alors, il les quitte, j'ai l'impression, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement, parce qu'ils repassent de l'autre bord. Ils ont rejeté la lumière. Et c'est la fin. Et à la fin de notre passage, Jésus s'en va avec ceux qui ont envie d'entendre. Les disciples, qui le suivent depuis des semaines. Qui ont été prêts à tout quitter, qui ont fait ce pas de foi. Et quand on parle des disciples, c'est là qu'on voit aussi toute la force de ce passage. Ces hommes le suivent depuis pas mal d'épisodes aussi. Ils reprennent la barque. Et quand ils prennent la barque, vous l'avez entendu, hein, ils ont conscience que ils n'ont pas pris suffisamment à manger. Non, on n'a qu'un pain. On va en manquer. Je me dis, mais ils viennent pas de vivre une multiplication. C'est pas un problème pour le Seigneur. Et sur le trajet, Jésus les avertit du danger du levain des pharisiens, du levain d'Hérode. Jésus est en train de les avertir d'un danger spirituel, de se laisser, de l'influence des religieux et des grands de ce monde, de cette opposition spirituelle. C'est profond ce qu'il est en train de leur enseigner. Prenez garde à ces mauvaises pensées de ceux qui ont des mauvaises pensées à mon égard. Et eux, ils pensent que Jésus est en train de leur parler de ce qui se trame au niveau de leur estomac. Ils ont compris que Jésus leur reprochait qu'ils n'avaient pas pris suffisamment de pain pour le voyage. Je trouve que c'est incroyable. Bon, ils sont prêts à faire confiance à Jésus, de le suivre, mais ils sont sourds. Hein. Ils ont du mal à saisir. Et Jésus les avertit. Il les compare un peu à ces pharisiens. Jésus se concentre sur des questions avec une telle portée éternelle, spirituelle, et eux sont dans toute une autre préoccupation. Je relis les versets 17 et 18. Jésus, leur dit, mais pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas? Ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Jésus cite ici des paroles du prophète Jérémie. Ce prophète en Israël qui, dans son contexte, devait faire face aussi à l'incrédulité du peuple et des grands de ce monde, qui ne comprenaient pas, mais Jésus ne veut pas qu'ils deviennent comme eux. Il leur rappelle. Ils ne saisissent pas toute la portée de l'instruction, de l'enseignement du Seigneur. Ici, comme dans d'autres épisodes, on l'a déjà vu et on le verra encore tout au long de Marc, les disciples, ils ont du mal aussi à comprendre, à saisir tout. On voit la fragilité de leur foi. Ils n'ont pas appris toute la leçon. Il y a un niveau d'immaturité, un manque de compréhension. Et Jésus le sait, et pour autant, il leur rappelle, il met le doigt dessus. Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers vous aviez ramassés? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu le 7 pains pour les 4000 hommes, là, de l'autre côté de la rive, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore? Je suis venu pour tous. Comprenez-le. Jésus est le sauveur. Et Jésus accueille quiconque met sa foi en lui. Il y a une confiance nécessaire à placer en lui. Ils sont comme aveugles et sourds. Ils ont entendu Jésus leur dire déjà beaucoup de choses. Ils ont vu déjà de la part de Jésus faire des choses extraordinaires. Mais, comme le cœur humain, on revient au cœur, ils ont du mal à comprendre. Leur cœur reste, sur bien des aspects encore endurcis, incapables de voir la beauté, la grandeur de cette bonne nouvelle. Et ils ont besoin d'un miracle pour que cela change. Mais, et c'est cela aussi la grâce, alors même qu'ils sont... qui comprennent pas tout, ils sont prêts à suivre cet homme. Ce n'a pas été le cas des pharisiens. Et ils vont continuer à le faire tout au long des prochains épisodes. Et il y a toute la dimension de la grâce, de la patience de Dieu à notre égard. Et c'est ce que je suis en train de me dire, on n'a pas besoin d'être des experts, d'avoir tout compris de Jésus pour être sauvé. Les gens que Jésus cherche sont ceux qui ont un besoin de comprendre, un besoin d'être sauvés, qui se reconnaissent venir humblement à lui, qui sont prêts à faire un pas de foi, comme cette femme non-juive, comme ses disciples qui ont encore du chemin à faire, qui vont être plus tard ces hommes et ces femmes qui vont répandre cette bonne nouvelle après le départ de Jésus. Alors pour terminer, j'aimerais nous questionner autour de certains nombres d'applications. Est-ce que nous sommes comme cette femme, prêts à venir dans sa toute humilité, fragilité, de voir que Jésus peut répondre à vos plus grands besoins? Est-ce qu'on va le supplier de nous sauver? Est-ce qu'on va saisir ses promesses? Jésus cherche ceux qui veulent comprendre. Et il est puissant pour les sauver tous. Ce même Jésus qui a ouvert les oreilles d'un sourd peut faire exactement la même chose dans nos vies, dans nos cœurs. Peut ouvrir nos cœurs. Sommes-nous prêts à faire cette démarche de foi? Jésus accueille tout le monde, hommes, femmes, juifs, non-juifs, intelligent ou non, quel que soit notre parcours, quelles que soient nos réticences, quelles que soient les casseroles que nous avons dans nos vies. Ce texte m'a montré encore l'émerveillement de la perfection de ce que Jésus est venu accomplir. Et qu'on découvre tout au long de l'évangile, de Marc, mais aussi de... Je me dis, c'est des épisodes qu'on connaît, mais de les revoir et de voir la portée de ce salut pour tous. Est-ce qu'on est encore émerveillé par ce salut pour tous, cette grâce qui nous est offerte, venue accomplir? Est-ce qu'on n'a pas parfois, comme ses disciples, oublié les hauts faits ou les preuves de l'intervention de Dieu dans nos vies passées? Ou parfois on était peut-être dans des situations sans espoir et Jésus est intervenu. Jésus leur dit « Rappelez-vous ce que j'ai fait dans vos vies. » Et c'est des choses qui doivent stimuler notre foi. Parfois, nous sommes appelés à regarder dans notre rétroviseur pour voir ce que Jésus a fait et nous en réjouir. Et aussi de voir avec espérance ce qui est devant nous. Parce que tout ce qu'on a déjà vécu avec le Seigneur sont là pour stimuler, enraciner notre foi. Et on est là pour nous le rappeler. C'est pour cela qu'on chante, qu'on rappelle tout le temps l'Évangile, qu'on prend tout le temps la scène. C'est pour se rappeler d'où on vient et de ce salut qui nous a été offert. C'est une grâce d'avoir un jour répandu, que quelqu'un aussi a répandu le salut, mais c'est une grâce qu'on a un jour répondu au salut, nous qui sommes déjà chrétiens. Parfois, on est loin de la vérité aussi, et on a plutôt notre regard centré sur notre ventre, sur ce pain du quotidien, que de voir les réalités spirituelles. Parfois, les soucis du monde, et là, on peut avoir en tête tout ce qu'il a aussi évoqué Jésus avec ses différents terrains. On a l'impression ici que les disciples, ils illustrent ce terrain des soucis du monde et au point d'oublier les vérités spirituelles. Chacun sera jugé à la mesure du don qu'il aura reçu. Nous avons beaucoup reçu. Alors plaçons notre confiance dans ce Jésus qui offre le salut pour tous, mais de tous ceux qui veulent et qui désirent apprendre. Amen.